Bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed Waldi. Donc nous vous accueillons ici dans le cycle de conférences publiques de l'ISM. Nous sommes à peu près au milieu du cycle de conférences qui est dense et qui a pour thème cette année, comme vous le savez certainement, la thématique liberté et contrainte dans les sociétés musulmanes. Nous accueillons donc Mohamed Waldi. Et sur la conférence, sur le prospectus, il est écrit que tu vas nous parler des esclaves en société musulmane, période moderne et contemporaine. Mohamed Waldi a réalisé, il y a plusieurs années, un doctorat sur une thématique proche qui a été publiée il y a 2 ans maintenant, presque 3, aux publications de la Sorbonne et qui s'appelle « Esclaves et maîtres, les mamelouks au service du Bey de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880 ». C'est une thématique qu'il fréquente donc depuis de nombreuses années et qui a donné lieu à la publication d'articles en France et aux États-Unis où il travaille désormais. Des articles, j'allais dire savants, mais aussi des articles de vulgarisation. Mohamed Waldi, d'ailleurs, a fait un travail tout à fait majeur dans un domaine qui était relativement peu parcouru il y a quelques décennies, qui a donné lieu à des travaux, notamment, je pense par exemple à Mohamed El-Naji, il y a maintenant assez longtemps, plus d'une vingtaine d'années au Maroc. Il y a eu des travaux aussi qui ont été menés sur les mamelouks dans le monde anglo-saxon, mais dans la recherche française. Ce sont quand même des thématiques qui maintenant commencent à être connues, mais qui ne sont pas non plus abondamment étudiées. Donc c'est un sujet majeur qui va être développé devant nous, d'autant plus majeur qu'il donne lieu, comme vous le savez, à des polémiques, à des représentations et à des ignorances, à tout un tas d'idées préconçues ou d'idées reçues. On va avoir une conférence qui va se déployer devant vous sur un certain nombre de thématiques, d'abord sur la norme et puis on terminera sur la période la plus contemporaine au 19e siècle qui est la longue période de l'abolition de pratiques qui ont eu cours dans l'Empire ottoman et sur ses marges durant évidemment plusieurs siècles. Mohamed Waldi a été doctorant dans notre université à Paris 1, ça s'appelle maintenant l'IMAF, l'Institut des mondes africains. Ça a changé de nom, ça s'appelait le CEMAF autrefois. En tout cas, il était doctorant sous la direction de Daniel Rivet. Il a ensuite été élu maître de conférence à l'INALCO en 2010. Il a enseigné 3 ans au département de langues arabes, et notamment en civilisation du monde arabe et du Maghreb contemporain, et du monde moderne aussi, parce qu'il est à la fois, il est à cheval en réalité, vu que les thématiques relatives au monde arabe ne correspondent pas tout à fait, notamment quand on parle de l'Empire ottoman, à la césure, à la sacro-sainte césure entre temps moderne et histoire contemporaine. Et il a enseigné notamment en histoire contemporaine, sur un sujet, là aussi, le Maghreb contemporain, qui est assez pauvre en collègues, malheureusement. Et alors, comme on en avait encore trop, on a été très généreux, on l'a envoyé il y a 1 an aux États-Unis. Alors, il a un très beau poste d'assistant de professeur à Princeton depuis 1 an. Alors, on est très heureux et très fiers pour lui et pour la recherche française, mais on espère secrètement qu'un jour, il nous reviendra. Voilà, je te laisse la parole. Je rappelle le titre de la conférence, Esclaves en société musulmane, période moderne et contemporaine, et tu as à peu près 1h15.
Oui, merci Pierre pour cette introduction. Merci aussi à Bernard Héberger pour l'invitation. Et puis aussi un grand merci à Marie-Hélène Bell pour l'organisation, un super travail d'organisation pour ces conférences, et à Anne-Catherine Vola aussi pour la logistique. Bon, je devais commencer par un PowerPoint, mais en fait, on va improviser. Ce n'est qu'une partie de l'image que je voulais montrer. C'est celle-ci. J'espère que vous arrivez à voir des choses. Bon, globalement, je vais resituer le contexte et ensuite en venir au sujet plus global que je devais aborder. Donc, le tableau représente en fait une scène à Alger en 1860, une rencontre entre le gouverneur de la province de Tunis, qui est ottomane à l'époque, Donc on voit bien le gouverneur de ce côté-ci sur le cheval, sur le cheval blanc. De l'autre côté du tableau, on voit un type avec une barbe sans tarbouche, sans chéchia rouge. C'est le consul de France, Léon Roche. Et en fait, ce qu'on devait voir dans l'autre partie du tableau, c'était l'empereur Napoléon III. Donc le gouverneur de Tunis vient donner une version de la constitution tunisienne qui est promulguée en 1861. Première constitution tunisienne, avant la troisième qu'il s'agit aussi de saluer ici. Et aussi parce que c'est la première constitution du monde arabe musulman. Mais on ne va pas faire du patriotisme ici, ce n'est pas le propos. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la circonstance même de ce tableau que les personnages qui sont entre le gouverneur sur le cheval blanc et Léon Roche. En fait, tous ces personnages qui ressemblent à des notables, des hauts ministres, des généraux, sont eux-mêmes de statut servile. Et je voulais commencer par ça. Donc, ils sont d'origine grecque, d'origine circassienne aussi, du Caucase, venus à Tunis dans leur enfance, puis éduqués localement, apprenant l'arabe, l'arabe aussi dialectal, et donc se hissant à des hautes fonctions. C'est ce qu'on appelle le phénomène mamelouk, sur lequel j'ai travaillé. Mais je voulais commencer par ces cas-là pour dire que c'est un des profils de l'esclavage en cette fin du XIXe siècle dans l'une des provinces de l'Empire ottoman. On est beaucoup plus familier en termes d'imaginaire d'un esclavage d'exploitation rurale dont on a encore des images fortes avec le récent film de 12 Years a Slave, donc un film très très dur qui est dans un autre contexte. Mais je vais commencer par ce type de profil pour marquer la diversité des formes serviles dans les pays d'islam. La question qui guidera ma présentation est assez simple et dans le même temps fort complexe lorsqu'il s'agit d'y répondre. C'est une question qui est inspirée du travail de Frederick Cooper à la fin des années 1970. Et la question qu'il posait pour l'Est de l'Afrique au XIXe siècle était celle de savoir s'il y avait ce qu'il y avait de musulmans dans l'esclavage tel qu'il était pratiqué en pays d'islam. En gros, les rapports entre esclavage et islam. Alors évidemment, en une heure, et traité sur plusieurs domaines géographiques, ça va paraître un peu prétentieux, mais je vais d'abord commencer par la question des normes juridiques, du statut légal de l'esclave, pour donner une vision générale. Et puis, j'évoquerai aussi quelles ont été les réelles pratiques, en fait, comment on définissait un esclave et ce que ça posait de difficultés. Ça, ce sera le premier temps de ma réponse à cette question. Puis, j'essaierai de voir ce qu'il en est de ce qu'on appelle les traits spécifiques d'un esclavage en terre d'islam. Je pèse mes mots, je ne parle pas d'esclavage musulman. Et ces traits spécifiques sont deux ordres. On dit que cette zone se caractérise par ce que l'on a appelé récemment une traite orientale, je sais revenir sur cette expression, et aussi sur le traitement des esclaves. Et la seconde caractéristique que j'essaierai ici d'examiner, c'est l'idée que c'est avant tout un esclavage domestique de maisonnée, mais aussi de cour princière, notamment dans les contextes impériaux. Dans la troisième partie, j'insisterai sur la période du XIXe siècle, qui est une période de transformation qu'on estime majeure. Là, je m'appuierai toujours sur des études qui sont devenues classiques et qui sont majoritairement anglo-saxonnes parce qu'ils ont investi ce champ de l'esclavage, qui était évidemment très important dans le contexte américain. Et dans la troisième partie, donc, je m'arrêterai sur cette période du XIXe siècle de deux points de vue. C'est un temps qui peut paraître paradoxal que ce XIXe siècle, parce que c'est une période où s'amorcent des processus d'abolition, et pas tant d'abolition du principe même que d'abolition de la vente, de l'acquisition et de la propriété de l'esclavage. Il faut être très nuancé sur ce principe d'abolition. Donc d'un côté, l'abolition, et de l'autre, en même temps, une explosion parfois des traites, soit clandestine, soit légale, d'esclaves venant de l'Ouest et de l'Est de l'Afrique vers l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, et puis vers la péninsule aussi arabique. Voilà, donc je vais, et puis si j'ai le temps, la quatrième partie, mais je pense que je n'aurai pas le temps, j'évoquerai le cas particulier de ces mamelouks des Bailles de Tunis, mais ça vous incitera à acheter le livre, ce qui est très bien. Je ne touche pas de droit d'auteur, c'est la vie universitaire qui est ainsi, pas sur celui-là en tout cas. Donc je vais commencer par un point assez simple, hein, de définition légale, et même très simpliste, mais il faut que ça apparaisse clairement. Donc pour avoir une idée rapide de ce statut légal, il faut se référer encore aujourd'hui à l'article crucial de Robert Brunschvig. Bon, sur le PowerPoint, ça devait apparaître, mais c'est pas. Je pense que vous pouvez le retrouver. C'est l'article Abd, A-B-D, donc, qui veut dire esclave. L'article Abd, donc A-B-D, dans l'encyclopédie de l'islam, qui est un article des années 60, mais qui reste très très clair pour avoir une vision à la fois simple et sophistiqué de ce que l'on entend légalement par ce que c'est qu'un esclave en normes musulmanes. Donc, je vais résumer ce que dit Brunschvig en quatre points, même si c'est beaucoup plus complexe. Le premier point de base, selon Brunschvig, le statut de base, c'est la liberté en terre d'islam. Concrètement, un enfant qui est retrouvé et dont l'origine demeure inconnue est considéré comme libre. Donc c'est ce principe de base. Du coup, un esclave n'est reconnu tel que dans deux cas majeurs, lorsqu'il est né dans la servitude ou lorsque c'est un captif de guerre. Mais encore avec une restriction, on ne peut être asservi en tant que captif de guerre si on est musulman. Ce n'est pas possible. Mais on verra qu'il y a des cas pratiques, des cas historiques, où des musulmans étaient asservis dans des contextes de guerre. On verra un cas tout à l'heure. Donc le troisième point, c'est cette idée qu'un esclave ne peut être musulman que s'il était déjà esclave avant sa conversion à l'islam. D'où le cas de mes mamelous qui ont été convertis, mais qui à l'origine, quand ils sont grecs, ne l'étaient pas, ou qui, venant du Caucase, ont des origines brouillées qui fait qu'on crée une fiction de non-appartenance à l'islam. Bon, j'espère que j'en ai pas perdu en cours de route. Mais... Et le dernier point est encore un point légal qui est important à signaler avant de commencer, c'est que l'esclave est à la fois chose et personne. Donc il est chose parce qu'il est soumis au droit de propriété, et donc à toutes les opérations qui découlent de cela pour une propriété. Mais il est aussi personne parce que ses rapports sociaux, donc rapports avec son propriétaire, avec l'ensemble de la société, rapports sexuels aussi, sont réglementés par le droit, comme pour d'autres hommes. Ça, évidemment, je résume un grand trait, ce qu'il faut peut-être avoir à l'esprit avant d'évoquer ce qui... se produit en pratique. Et en pratique, il y a évidemment différentes lectures du droit musulman. Il y a des écoles d'interprétation différentes, notamment lorsque l'esclave est femme et qu'elle porte en son ventre l'enfant du maître. Cela lui promet un affranchissement, mais les conditions même de l'affranchissement sont interprétées différemment selon les écoles juridiques. Il y a toute une série de cas très très spécifiques où les écoles d'interprétation musulmanes, du droit musulman, vont introduire des variations selon les contextes. On peut évoquer déjà une première différence. Là, le problème de est-ce qu'un esclave peut être musulman ou pas. Donc historiquement, et là je me réfère à des travaux d'ottomanistes, en 1554 à Istanbul par exemple, donc au centre de l'Empire ottoman, un avis juridique, donc une fatwa, autorise l'asservissement des chiites au moment même où les sultans sunnites de l'Empire ottoman luttent contre la dynastie safavide d'Iran, donc dynastie chiite. On pourrait prendre un autre cas qui n'est pas un cas de contexte de guerre au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, pardon, au Maroc. Donc le célèbre sultan Moulay Ismail doit affronter l'opposition des savants religieux de la ville de Fès en 1698, donc parce qu'il veut forcer le recrutement de Noirs non esclaves, reconnus comme libres dans le corps militaire qu'il a formé des Abid al-Bukhari, donc un corps d'esclaves soldats noirs. Mais là, il y a un problème, puisqu'ils ont un statut libre, et donc on ne peut pas les contraindre à être enrôlés dans cette armée qu'on pourrait qualifier d'ethnique. Bon, un deuxième point sur les divergences donc, entre normes et pratiques, c'est-à-dire que vous avez le statut légal d'esclaves et d'hommes libres. C'est une réalité, on ne peut pas la contester, sauf que dans la pratique, ce qui est plus important, ce n'est pas tant le statut légal, mais votre situation de dépendance sociale. Vous devez vous représenter une société, comme on dirait, fragile, où les conditions climatiques sont déterminantes, les épidémies constantes, et donc ça veut dire que vos familles, vos groupes sociaux, les groupes sociaux auxquels vous appartenez sont parfois désarticulés. Vous perdez, par exemple, votre père, votre protecteur, et dans cette situation fragile, vous êtes faible dans la société, il faut vous trouver un nouveau protecteur. Et donc, vous rentrez dans la dépendance de quelqu'un d'autre. Et ces moments d'épidémie, de famine, de crise, même parfois politique, qui démantèlent des familles, les fragilisent, démantèlent des parentés, créent aussi des situations de dépendance sociale où les gens se resituent largement sous la coupe d'un nouveau maître. Et là, ça a été très mis en avant par Mohamed Neji, auquel Pierre Vermaine faisait référence dans un livre qui a eu beaucoup de succès au Maroc et qui a eu une grande importance pour sensibiliser les populations marocaines à leur passé d'esclavage. Je cite le titre, donc c'est un ouvrage de 1994, donc Neji, E2NAJI, Soldats domestiques et concubines, l'esclavage au Maroc au XIXe siècle. Donc là, je vais simplement peut-être lire quelques lignes de la page 143 pour que vous compreniez cette idée qui est fondamentale pour comprendre pourquoi le statut de dépendance est parfois plus important que le statut légal d'esclave ou d'homme libre. Donc dans la société du XIXe siècle, la société marocaine, l'opposition n'était pas tranchée entre la liberté et la servitude. Il y avait toute une gradation qui faisait passer presque insensiblement de celle-ci, donc de la liberté, à celle-là, la servitude, même si, théoriquement, elle restait aux antipodes de l'une et de l'autre. Seuls les lignages plus ou moins étendus parvenaient dans une telle situation à se prémunir contre les difficultés et l'usure du temps, si bien qu'à l'autre pôle, la société produisait beaucoup de marginaux, ce que nulle parentèle ne pouvait préserver des vicissitudes de l'heure, s'émanant en puissance, était à la première bourrasque pris dans les filets de la dépendance. On retrouve aussi ce type de situation de dépendance sociale qui dépasse même le cadre du statut légal dans d'autres régions. En Afrique subsaharienne, une multitude de mots qui font référence à des formes variées de dépendance et des communautés villageoises qui peuvent être possédées par une autorité qui en exploite les ressources. En Asie du Sud-Est, ça a été aussi beaucoup travaillé, notamment par Anthony Reid, R-E-I-D, et qui souhaite insister sur l'idée que ces sociétés asiatiques sont aussi, sud-est asiatiques sont des sociétés aussi de mélange religieux, avec des conséquences, avec des conceptions différentes sur cette question de la dépendance, de l'esclavage et de la liberté. Et selon lui, en fait, ce qui est plus important, ce sont les notions de hiérarchie, de contrôle, d'obligation mutuelle. Ces notions l'emportent et sont plus déterminantes que les définitions abstraites de l'esclavage. Alors toujours selon Reid, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, selon lui, l'islamisation d'une région en Asie du Sud-Est pouvait bousculer toute une série de dépendances, toute une hiérarchie de dépendances. Et ferait passer, donc cette islamisation ferait passer l'esclavage d'un système qu'il appelle clos, avec des fortes distinctions entre libres et esclaves, à des systèmes ouverts, avec une plus grande flexibilité et des changements de statut. Dans cette perspective, donc, la question d'un soi-disant esclavage musulman se complexifie constamment selon le contexte, et il est malaisé de généraliser et de faire référence à des catégories très très simples. Et je vais passer du coup à mon second point. L'idée, c'est d'examiner deux caractères ou deux traits qu'on estime spécifiques à l'esclavage en terre d'islam. Le premier caractère, c'est l'idée qu'il y a une traite orientale. Et le second caractère, c'est le traitement même des esclaves et l'idée que c'est d'abord un esclavage domestique. Donc l'expression de traite orientale a pu être évoquée il y a quelques années par Olivier Pétré-Grenouillot dans un ouvrage de synthèse, en fait, qui visait à comparer, selon lui, différents systèmes de traite. Notamment, l'idée, c'était de comparer ce qu'il appelait donc une traite orientale ou une traite arabe à une traite atlantique. C'était surtout un point de vue de synthèse et un point de vue de comparaison. Alors, on n'a pas la carte ici, mais je vais essayer d'expliquer que ce que prend en compte surtout Olivier Pétré-Grenouillot, ce sont les traites qui partent de l'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb, l'Afrique du Nord, et de l'Afrique de l'Est vers l'Égypte, la péninsule arabique, mais aussi une partie vers le Maghreb. Et il faudrait ajouter quand même à ces deux traites importantes, à ces deux foyers importants de l'esclavage, deux autres qui sont plutôt au nord du monde musulman, les rives nord de la Méditerranée, au temps de la course, et puis le Caucase, qui est très important pour le centre de l'Empire ottoman. Alors, bon, si je commence par là, parce que c'est peut-être moins connu et parce que ça, c'est important pour le recrutement des élites militaires, administratives, pour le fonctionnement même de l'Empire, les esclaves caucasiens, par exemple, passaient de ces régions caucasiennes par les marchés d'Istanbul, d'Izmir, de Crimée, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et on estime qu'entre 1500 et 1700, 2,5 millions d'esclaves seraient passés par là. Le centre impérial ottoman était aussi approvisionné par des captifs de guerre venus du front avec les Persans, donc avec les Safavides. Ça, c'est un autre foyer. Donc. Et puis, du côté maghrébin, mais c'est un peu plus connu, il y a donc cette guerre de course, 16e, 17e, ça s'agit au 18e siècle, entre corsaires maghrébins, puis aussi des ordres combattants chrétiens, Malte notamment, Pise également. Et l'apogée de cette guerre de course pour le Maghreb, en tout cas, ce sont les années 1570 aux années 1630. On peut faire référence aux travaux de Salvatore Bono, faire référence aussi aux travaux de Michel Fontenay. La diversité de ces traites et le déséquilibre dans la connaissance même de ces traites, on connaît certaines beaucoup mieux que d'autres, rend pour l'heure difficile toute évaluation globale et chiffrée du nombre d'esclaves à destination de l'ère islamique. Bon, les historiens sont quand même essayés à estimer ces traites d'esclaves par des projections à partir d'échantillons de sources, généralement, ou par des compilations de sources. Ralph Austin avait initialement chiffré à 17 millions le nombre d'esclaves noirs ayant traversé le Sahara, la mer Rouge et l'océan Indien pour les périodes médiévales et modernes. Ce chiffre a pu être discuté par d'autres, hein, et plutôt à la baisse d'ailleurs. Un autre cas dont Robert Davis, pour le cas du Maghreb, entre 1530 et 1780, a estimé que 1,250,000 captifs chrétiens avait donc été retenu au Maghreb à l'époque moderne. Mais si vous regardez l'ouvrage de Davis, il s'appuie avant tout sur des récits de voyageurs européens, sur des sources avant tout européennes, ce qui pourrait ne pas poser de problème, mais il y a évidemment de l'extrapolation. Quand vous arrachetez des esclaves ou des captifs, il s'agit aussi de gonfler les chiffres pour ramasser plus, pour racheter par la suite. Il y a aussi un problème idéologique, puisque Robert Davis écrit dans le contexte d'après le 11 septembre 2001, en essayant d'avancer l'idée d'un antagonisme entre civilisations. Pour les flux hors d'Afrique, William Clarence Smith, qui a écrit un très bon livre sur l'abolition en terre musulmane, donc en anglais, avait aussi essayé de chiffrer donc, le nombre de captifs dans les zones caucasiennes. Mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Simplement, peut-être, quelle comparaison avec les populations locales en nombre, le nombre d'esclaves par rapport à une population citadine ou par rapport à une province, qu'est-ce que ça représente réellement? Donc un récent article de Charles Wilkins, paru au Journal of the Economic and Social History of the Orient, estimait que pour une ville comme Alep au XVIIe siècle, il y avait entre 3 et 5 000 esclaves pour une population de 100 000 habitants. Il dit quand même que c'est important, surtout pour le fonctionnement de la ville. Mais ça vous donne une image pour une ville importante du Proche-Orient ottoman. La province de Tunis, les chiffres ne sont pas certains, mais on estime qu'au début du XIXe siècle, il y a un peu moins d'un million d'habitants et que peut-être 3% de la population est servile. Mais évidemment, on a beaucoup de difficultés avec ce type de chiffres. Il faut peut-être aussi se référer aux chiffres des périodes coloniales, au recensement qui commence plus tardivement, et on aura une meilleure idée des populations globales, locales. Ça, c'était sur cette idée de traite orientale, plusieurs flux, difficulté à estimer, et puis surtout à comment rapporter ce nombre d'esclaves à des populations locales qu'on a de toute façon beaucoup de mal à estimer. Le second trait qui est important, c'est l'idée que c'est un esclavage de domesticité et beaucoup moins un esclavage de main-d'œuvre ou d'exploitation rurale. Cette idée, c'est essayer de distinguer cette zone des zones d'exploitation, de plantation des Amériques. Hein. C'est une volonté de distinguer des formes d'exploitation. Et derrière ça, il y a une idée qui est aujourd'hui beaucoup remise en cause d'un meilleur traitement des esclaves au monde musulman que dans d'autres aires qui utiliseraient aussi des main-d'œuvre serviles. C'était récemment remis en cause dans une introduction d'un des spécialistes de l'esclavage pour la période ottomane, donc Ehud Toledano. Je cite le début du titre, donc « As if silent and absent », où il essaye de recouvrer la voix des esclaves, et surtout il discute cette historiographie qui a longtemps minoré l'esclavage en terre d'islam, en estimant que les gens étaient mieux traités puisqu'ils étaient dans des demeures et pas à travailler sur les champs mais, ou en zone rurale. Mais aussi, il n'y a pas que l'idée qu'on puisse remettre en cause cette idée de bonnes conditions. Il y a aussi la découverte plus avant de l'utilisation d'esclaves en zone rurale, non seulement dans les sociétés d'oasis où c'est connu, mais dans les pourtours des villes. Et en fait, la difficulté, je parle plutôt pour le Maghreb ici, la difficulté, c'est que les sources d'une histoire rurale sont difficiles pour l'avant 19e siècle à trouver. Et donc, vous pouvez difficilement reconstituer ce que c'est que l'exploitation des hommes, même libres, dans des zones rurales, au-delà de la périphérie des villes, où là, il peut y avoir des sources fiscales et même des registres financiers qui peuvent donner une certaine image. Il y a la connaissance aussi, par exemple, dans les plantations de café au Yémen au XVIIe, XVIIIe siècle, on sait, dans ces zones, l'utilisation d'esclaves à des fins d'exploitation rurale. Il y a aussi le cas égyptien dans la seconde moitié du XIXe siècle avec le boom du coton. Donc il y a, plus on se rapproche des temps contemporains, et plus on a une vision plus claire de ce que c'est que l'esclavage en zone rurale. Et puis le cas évidemment majeur, c'est l'Afrique de l'Est au XIXe siècle et aussi l'Afrique de l'Ouest. Un livre de Paul Lovejoy qui est devenu un classique, Transformations in Slavery, History of Slavery in Africa, montre qu'en Afrique de l'Ouest, dans ce qui correspond à peu près à l'actuel Nigeria, la mise en place de califat, d'un califat, où il y a plusieurs types d'exploitation rurale, et notamment des domaines qui sont administrés par des esclaves royaux. Donc une meilleure connaissance aussi de ce système, et je ne reviens pas non plus aussi sur le cas de Zanzibar, qui a été étudié entre autres par Frederick Cooper. Bon, ce qui est mieux connu, parce que les sources sont là, et parce que c'est aussi très impressionnant, c'est cet esclavage domestique, esclavage princier, esclavage d'État. Jusqu'au début du XXe siècle, les souverains musulmans se sont entourés de plusieurs catégories d'esclaves de maisonnée, les eunuques, les odalisques et les soldats esclaves qui ont porté plusieurs noms, dont celui de Mamelouk. Bon, leur emploi n'est pas propre au monde musulman, mais c'est tout de même très répandu dans l'ensemble de l'Empire ottoman, en Asie centrale aussi, dans l'Inde moghole, la Perse safavide, en Afrique de l'Ouest également, comme Lovejoy l'a aussi montré, où on utilise aussi la catégorie de Mamelouk. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on utilise des odalisques, des eunuques, des soldats esclaves ou même administrateurs esclaves, il faut aussi comprendre quelle est la logique de leur utilisation. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Parce qu'on sort des peintures orientalistes et on voit à quoi ça sert tout ça, en quoi c'est utile. Non pas qu'il faille légitimer l'usage des esclaves, mais surtout comprendre pourquoi c'est utile. Les odalisques, par exemple, elles sont fondamentales pour la perpétuation des dynasties. Et la sexualité est très contrôlée puisqu'il y a un enjeu. Il y a l'ordre de succession aussi. L'aîné, généralement, dans le cas de Tunis en tout cas, c'est visible, succède au souverain décédé. Et donc, il faut contrôler la sexualité, y compris par les concubines. Du coup, peut-être quelque chose qui vous étonnera, en tout cas ceux qui ne connaissent pas, les princes et souverains peuvent épouser des femmes libres, mais ne les épousent pas pour leur faire des enfants, ou très rarement, plutôt pour capter leur héritage. L'enfant sera fait avec la concubine, puisque cela permettra de mieux contrôler la descendance et du coup aussi les questions d'héritage. Puisque cette femme-là n'a pas de droit et qu'elle n'a pas non plus de parenté proche dans le lieu où elle a été accueillie. Prenons une circassienne qui joue du piano dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est recrutée pour ça, mais aussi parce qu'elle peut faire de beaux enfants dont, enfin, il n'y a pas de belle famille pour réclamer la part. C'est parfait. Je schématise, mais pour que vous ayez une vision aussi. Les eunuques aussi. Vous voyez très bien quel type d'usage ça peut être, enfin pourquoi les eunuques peuvent être utiles, mais au-delà même du contrôle du harem, de ce contrôle-là, là encore de la sexualité, récemment des travaux comme ceux de Jane Hathaway, mais ce n'est pas le seul, ont montré que les eunuques avaient aussi un rôle politique administratif. Ils maintenaient des liens avec les lieux saints de la Mecque, auxquels ils pouvaient, enfin, dans ces lieux, ils avaient un rôle de protection aussi, ce qui est très intéressant. Mais les eunuques d'Istanbul, du sultan, avaient aussi des liens avec l'Égypte. Ils venaient du sud même de l'Égypte, mais on va dire que leur retraite, entre guillemets, quand ils étaient disgraciés, ils quittaient Istanbul pour vivre au Caire, certains, où ils avaient des biens fonciers très importants et aussi des propriétés urbaines importantes. Ce qui donne aussi, du coup, plus de complexité à la manière dont on voit ces catégories d'esclaves domestiques, de maisonnées ou de cours. Le troisième élément majeur, donc les esclaves-soldats, ont plusieurs noms que vous connaissez d'une manière ou d'une autre. Bon, les janissaires, même si les janissaires sont devenus progressivement des hommes libres. Au cours du XVIIe siècle, on cesse de plus en plus de recruter des esclaves et on enrôle plus largement des hommes libres. Vous connaissez aussi le terme de mamelouk, qui est plus un terme utilisé en contexte, enfin, pour des documents rédigés en langue arabe. Pour les Ottomans, on parlera plutôt de koul. Pour le cas du Maroc, la garde noire de Moulay Ismaïl et des autres sultans arabes d'Al-Bukhari. Jihadiya dans la partie soudanaise de la vallée du Nil. Enfin, il y a plusieurs termes, mais qui recouvrent la même situation. Des hommes qui ont des origines lointaines, qui sont ensuite captés par une famille au pouvoir, qui sont éduqués pour être obéissants et pour accéder à des hautes fonctions de chef d'armée ou de chef d'administration. Bon, leur usage n'est pas que celui-là, tout comme les odalisques, en fait, ils permettent aussi de contrôler la sexualité et aussi la descendance des descendantes libres de ces souverains. Donc régulièrement, ce sont plutôt ces hommes-là qui épousent les filles, les sœurs des souverains, ce qui permet là encore de bien avoir une stratégie patrimoniale. Je finirai aussi peut-être sur ce point-là, sur le fait que récemment aussi, peut-être depuis une vingtaine d'années, on voit quel est le rôle des mamelouks et des odalisques dans les transmissions de biens, notamment à travers les actes de Habous. Dans le cas où vous avez une grande maisonnée plutôt puissante, où il n'y a pas de descendants masculins, ça a été étudié dans le cas d'Alep récemment, donc par Wilkins, dans ce cas-là où il n'y a pas de descendance mâle assurée, naturelle, le maître de la maisonnée peut aussi mettre en avant un de ses affranchis pour perpétuer la maisonnée. Et donc, c'est pas qu'on légitime le phénomène, mais du coup, on comprend mieux l'importance sociale de ces esclaves dans ces contextes-là. Et qui ne met pas en cause le fait qu'il y ait mauvais traitement. On en a des traces dans les sources, hein, des gens qui vont chercher asile quand ils sont battus presque à mort par leur maître. Donc il ne s'agit pas du tout d'euphémiser les situations serviles en disant qu'ils permettent simplement la constitution de maisonnées ou sont insérés dans des stratégies patrimoniales. Alors je vais m'orienter plutôt vers la question, enfin l'évolution finale, les transformations du 19e siècle. Le 19e siècle est une période... Donc, c'est un moment ambivalent hein, que ce 19e siècle donc, est perçu comme le temps des abolitions, donc la fin des esclavages ou de l'amorce d'une fin des esclavages dans ces zones musulmanes, mais qui est aussi un moment d'intensification des traites. Les deux sont liés de toute façon. Il y a aussi un trafic clandestin, même en situation où la vente d'esclaves devient donc illégale. Donc au XIXe siècle, le nombre de personnes qui traversent le Sahara aurait doublé. C'est une vision très large. Mais si on va plus en précision, par exemple avec la prise d'Alger, puis le fait que les armées françaises s'enfoncent dans le territoire, prennent progressivement contrôle du Sahara, ce qui se fait notamment au début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, on va dire, grosso modo. Donc l'arrivée des Français, même depuis les années 1830-1840, va détourner les trafics, les traites vers la Syrie, vers la Libye, pardon, et vers le Maroc. Et ça, c'est aussi, la Libye devient encore plus clairement un lieu, enfin ce qu'on appelle la Tripolitaine, devient plus clairement un lieu de vente et de revente des esclaves, notamment en Méditerranée, notamment pour le centre de l'Empire ottoman. Dans l'est de l'Afrique, la croissance est plus intense. Les effectifs d'esclaves auraient quadruplé de 1820 à 1880. Notamment l'île de Zanzibar, qui devient l'entrepôt le plus important dans les années 1860. Au Caire, selon les études d'Ehud Toledano, l'importation d'esclaves avait chuté à près de 3500 par an dans les années 1860. Et elle remonte à 10 000 par an la décennie suivante. Comment on explique ce regain sur un temps court, hein, là où on a certainement des archives plus consistantes, notamment les archives des consuls européens qui sont aussi à l'affût de tout mouvement commercial, parfois quelques archives locales, mais comment on explique ce regain ? L'idée que les structures et les voies d'acheminement des esclaves sont éprouvées et réaménagées durant cette période du XIXe siècle serait un premier facteur. En gros, les zones sont aussi plus contrôlées. La diffusion des armes, notamment, permet de comprendre que les commerçants se défendent mieux contre des brigands. C'est peut-être une raison. Mais ce qui est souvent avancé, parce que c'est une bataille idéologique de comprendre ce regain du 19e siècle, l'autre facteur, c'est de dire qu'en fait, ce sont les avancées progressives du monde chrétien dans l'océan Atlantique, en Méditerranée, dans le Caucase, dans l'océan Indien, donc ces avancées progressives du monde chrétien sur plusieurs fronts qui amènent les puissances musulmanes à se détourner de certains anciens foyers d'esclavage, comme le Caucase, pour se tourner davantage vers les domaines africains. Et cela s'accompagne de la mise en place de politiques à visée impériale ou de mouvements religieux, d'islamisation ou de réislamisation parfois en Afrique de l'Ouest. En 1820, parmi ces dynamiques impériales, c'est la province donc du Caire, sous l'autorité de Mohamed Ali, qui amorce une expansion dans l'actuel Soudan, donc est envahi. Et un cinquième des esclaves exportés du Haut-Nil d'Égypte le sont donc entre 1820 et 1869. En Afrique de l'Ouest, c'est le contexte des guerres saintes, qui sont d'abord lancées dans un refus des violences qu'engendraient les pratiques de l'esclavage, mais qui peuvent aussi déboucher sur l'assujettissement de populations. L'autre raison est toujours liée à l'avancée du monde chrétien, c'est cette idée que l'industrialisation au XIXe siècle du monde occidental crée des besoins croissants en matières premières qui sont pour partie assouvis par des sociétés agraires et commerçantes en Afrique, en Asie, qui ont recours à des esclaves, notamment sur la côte Swahili ou bien encore au Soudan. Donc, vous voyez, il y a un enjeu idéologique fort parce que l'idée aussi, c'est de dire que c'est l'expansion européenne qui permet de comprendre ce regain du XIXe siècle. Et l'autre explication serait de dire non, ce sont les dynamiques locales, impériales, djihadistes, d'islamisation qui pourraient permettre de comprendre ces phénomènes. Au cours du XIXe siècle, une partie du monde musulman vit à la fois un durcissement des pratiques de l'esclavage et une profonde perturbation des modes d'organisation de ce trafic. Donc là, je vais évoquer aussi, dans un second point de cette troisième partie, l'abolition comme un processus long et fragile. Donc, dans un premier temps, et ça, il ne faut pas du tout l'oublier dans le cas maghrébin, par exemple, et le cas même ottoman de manière générale, dans un premier temps, c'est surtout la traite d'esclaves chrétiens qui est démantelé sous forte pression européenne, britannique avant tout, mais à la suite des congrès diplomatiques de la fin du Premier Empire. Donc ça, cela explique très nettement, par exemple au lendemain du congrès de Vienne de 1816, toute une série d'opérations militaires, d'intimidation des pouvoirs maghrébins pour qu'ils relâchent les esclaves d'origine européenne, enfin surtout des esclaves italiens, d'origine italienne. Et ensuite, l'un des autres foyers qui va disparaître dans les années 1850, c'est le Caucase. Géorgie, puis Circassiens vont progressivement être de moins en moins vendus sur les marchés ottomans. C'est surtout dans un second temps qu'en fait, la puissance britannique comme puissance abolitionniste s'attaque à la traite des Africains dans ce monde-là, avec une influence importante sur Tunis très rapidement. Entre 1841 et 1846, c'est l'interdiction des ventes et des mesures, enfin des ventes d'esclaves, et les mesures d'affranchissement sont valorisées, favorisées par le gouverneur de la province ottomane de Tunis. Et là, vous voyez, c'est complexe parce que ça ne veut pas dire abolition comme on le lit souvent dans les ouvrages qui traitent de cette histoire-là. Dans le cas tunisien, c'est d'abord la vente et le marché qui est rendu illégal, ce qui veut dire que les trafics peuvent devenir clandestins, ce qui veut dire que l'État n'a plus contrôle de ce trafic et ne peut plus non plus taxer les ventes. Et parallèlement, il y a l'idée qu'il faut favoriser les affranchissements. Est-ce que fait le bey lui-même, le gouverneur? les grands dignitaires dans son entourage vont affranchir un certain nombre de leurs esclaves domestiques. Mais la difficulté dans le cas de Tunis, que je connais un peu, c'est qu'en fait, il faut plusieurs mesures d'abolition pour parvenir à éradiquer l'esclavage. On peut dire dans les années 1920-1930, on en a encore durant la période coloniale. Un cas comparable d'ailleurs sur l'Algérie, on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais mettons que les années 1840 embrayent ou commencent un processus légal d'interdiction de vente, et on a le même cas au Caire avec la fermeture du marché aux esclaves du Caire en 1842. Et Istanbul interdit la traite africaine, sauf en mer Rouge, en 1857. Bon, je pourrais accumuler les dates, le fait que l'esclavage cesse d'être reconnu dans les Indes britanniques en 1843, en 1848 en Algérie à la suite de la constitution de la Seconde République, et bon, encore d'autres domaines coloniaux. Mais vous voyez qu'à la fois, il y a un processus de pression britannique, un processus de colonisation de terres musulmanes qui aboutit légalement à interdire l'esclavage. Et puis, il y a des répétitions d'abolition. Dans les années 1880, des abolitions sont promulguées dans des domaines aussi divers que Bukhara en 1885, Tunis 1890, Zanzibar 1909. Et le XXe siècle ouvre une autre période d'abolition légale, avec cette fois-ci un principe de liberté individuelle qui est inscrit dans les lois fondamentales qui se mettent en place donc en Iran en 1907, les constitutions d'Égypte, d'Afghanistan en 1923, de Libye en 1951-1952 avec les indépendances. Mais là aussi, je ne vais pas vous accabler de dates, simplement aussi pour terminer sur l'idée que le processus est progressif dans la péninsule arabique entre Bahreïn 1937 et Oman en 1970, sans compter le cas de l'ultime abolition qui entre en vigueur en Mauritanie en 1980. Dans ces périodes, les politiques coloniales sont aussi ambivalentes sur ces questions d'abolition. On prend le cas britannique, c'est une puissance qui est perçue comme abolitionniste. Mais localement, dans les zones coloniales, il s'agit de gérer cette affaire très délicatement, parce que l'idée, ce n'est pas aussi de perturber complètement l'ordre social. Ce qui est aussi pour partie la politique mise en place par la France en Tunisie et au Maroc. En Tunisie et au Maroc, plus clairement encore, l'idée, c'est ce sont des affaires privées qui regardent les familles. Nous n'intervenons pas, sauf si des cas d'abus apparaissent très nettement et publiquement et apparaissant comme des scandales, notamment dans les années 1880 en Tunisie. Donc c'est une gestion très délicate de ces questions d'esclavage tardif dans ces domaines-là. D'autant plus qu'apparaît aussi à cette même période la conception d'un esclavage musulman qui est présenté comme moins violent que l'esclavage occidental, et qui s'impose du coup aussi dans les politiques conduites par les autorités européennes. Je ne vais pas présenter d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les conservateurs réactionnaires. Les choses sont évidemment très, très complexes à l'échelle locale des colonies ou des zones sous domination ou sous influence européenne. Bon, les sociétés musulmanes ne sont pas passives dans ce processus d'abolition. Ça aussi, Roger Bott ou donc Clarence Smith ont mis en valeur cette action locale. Dans le cas de Clarence Smith, il met en valeur surtout un discours abolitionniste qui se met en place lié à la pensée musulmane. Il y a un long débat et de longs désaccords sur la question de l'esclavage, mais selon lui, ce débat est ravivé au début du XIXe siècle par les savants sunnites du sous-continent indien et aussi, dès le milieu de ce même siècle, par les chiites en Inde, en Iran, en Irak et au Liban. Le problème de l'asservissement est aussi l'asservissement de musulmans par d'autres musulmans et soulevé très nettement aussi durant cette période. C'est ce qui a expliqué, ce qui a fondé juridiquement la politique de fermeture des marchés d'esclaves et d'affranchissement à Tunis, par exemple. C'est un mufti hanafite, d'une école d'interprétation du droit musulman, Mohamed Bayram, qui a mis en valeur dans les années 1840 cet argumentaire du mauvais traitement des esclaves par les musulmans et du paradoxe d'asservir des musulmans par d'autres musulmans sous l'influence d'autres penseurs. On pourrait y revenir. Mais c'est aussi, ça apparaît aussi dans la pensée d'Ahmed al-Nassiri, donc grand historiographe de la seconde moitié du XIXe siècle, marocain. On pourrait dire aussi qu'au-delà de rechercher une pensée abolitionniste locale, ce qu'essaye de faire Clarence Smith, la transformation même des sociétés musulmanes, de leur État, de leur administration, de leur armée, permet de comprendre aussi qu'un nouveau rapport s'instaure entre libres et esclaves. Moi, je vais être plus concret ici. Par exemple, l'idée même d'égalité des sujets, l'égalité entre les sujets d'un souverain, d'un sultan, apparaît dans le Khatih Sharif ottoman de 1839 ou dans le pacte fondamental tunisien de 1857. Bon, vous allez dire que c'est que du papier et ça n'empêche pas le maintien de pratiques esclavagistes. Mais il n'empêche que c'est un fondement aussi légal, c'est aussi important. Non pas que les esclaves aient joué de ce principe, et certains étaient encore forcés à rester dans le domicile de leur maître, mais ça change en termes d'esprit le rapport aussi à l'esclavage. La question aussi des armées, vous savez qu'en fait des armées régulières se mettent en place, avec aussi mise en place de la conscription dans l'ensemble de l'Empire ottoman et aussi dans des domaines musulmans plus larges. Alors ça peut avoir, enfin, paraître n'avoir aucun rapport avec l'esclavage, mais c'est fondamental parce qu'en fait, les premiers projets d'armée régulière, dans le cas de Tunis et dans le cas de l'Égypte, étaient aussi des projets de mise en place d'armées serviles, qui ont été fondées par l'achat ou la contrainte d'hommes africains, esclaves et parfois libres que l'on voulait contraindre à être enrôlés. Dans le cas de Tunis, ça a été un échec, et dans le cas de l'Égypte, on n'est pas allé au bout de ce projet. Du coup, qui faut-il enrôler ? Ben, ce sont les hommes libres, en fait. Et ça instaure un nouveau rapport aussi. Les hommes libres, venus de sociétés paysannes, parce que ces sociétés sont majoritairement paysannes, ils ne devaient pas forcément servir dans l'armée du prince, sauf vraiment à le vouloir. Leur contribution était fiscale avant tout, et l'impôt du sang était versé par d'autres troupes. Ce n'était pas à eux de le faire. Et là, on change. Non seulement on verse des impôts, mais aussi on verse l'impôt du sang. On peut être enrôlé dans l'armée régulière. Ça, c'est aussi fondamental. Et en fait, on n'a pas assez mis en rapport à armée régulière, conscription et liberté ou servitude. C'est très, très important pour comprendre ce qui se passe au XIXe siècle et ce qui se transforme. Donc, adaptation à un contexte tout à fait nouveau et aussi adaptation dans les zones rurales, dans les propriétés rurales. Dans de nombreux cas aussi, s'accentue la pratique du métayage, qui est aussi une pratique de dépendance sociale très importante, c'est-à-dire vous mettez des gens sous votre contrôle, exploitez votre terre, et ils n'auront qu'une infime partie, parfois, dans les contrats léonins, de ce qu'ils produisent. Donc, je terminerai peut-être cette troisième partie pour dire que l'esclavage, en fait, n'est devenu un motif explicite de conflit politique et social que dans un nombre limité d'États. On peut le dire comme ça. Pour d'autres, la question est souterraine. Mais clairement, explicitement, Zanzibar, au début des années 1960, ce sont des descendants d'esclaves qui se sont soulevés contre les populations dites arabes ou arabisées afin de s'unir avec le Tanganyika et former la Tanzanie. Les violences religieuses et ethniques qui ont été récurrentes au Soudan et elles ont été importantes aussi dans le contexte politique. Et évidemment, le cas le plus important, c'est la Mauritanie, depuis les années 1970-80, où là, il y a un débat très, très important autour de l'esclavage. Et très récemment, et c'est le fruit des révolutions, en Tunisie, avec la démocratisation, s'est mise en place, par exemple, une association de lutte contre le racisme à l'égard des Noirs du pays, qui est constamment euphémisée. Une association modeste, hein, mais qui peut pointer aussi une réflexion sur les séquelles de l'esclavage et dans le même temps montrer que les gens de couleur en Tunisie ne sont pas forcément issus, n'ont pas forcément une origine servile. Il y a aussi des gens libres qui sont venus, par exemple à la fin du XIXe siècle, de la Tripolitaine, travailler à Tunis. Ils n'étaient pas dans des conditions de servilité. Donc, cela ouvre peut-être aussi de nouvelles pistes de recherche de ce point de vue-là, entre mémoire et histoire dans le contexte tunisien. Il y a eu le travail d'Inès Dalimrad que je signale. Mais il y aura aussi d'autres possibilités de recherche, notamment les pratiques culturelles collectives des esclaves. Ça se fait beaucoup maintenant pour l'Empire ottoman. Montrer que les rites religieux, notamment le culte bori, étaient encore développés à Tunis au début du XIXe siècle, à Istanbul aussi. Montrer aussi que ces sociétés d'esclaves à Tunis et à Istanbul s'organisaient en loges. C'est aussi passionnant de montrer ça. Alors que parallèlement, elles pouvaient aussi être dans un processus d'islamisation. Il y a aussi des travaux fascinants qui montrent les liens avec le Nouveau Monde, et notamment une culture musulmane apportée par les esclaves dans le Nouveau Monde, l'utilisation de la calligraphie arabe et de manuscrits répertoriés, retrouvés dans ce Nouveau Monde.
Très bien, 20 minutes à peu près.
Oui, je voulais peut-être finir sur ce cas particulier des Mamelouks des Beys de Tunis. Donc, il y a une définition classique des Mamelouks, qui est une définition qui a été mise en place par le pape des études Mamelouks, David Ayalon, donc Ayalon, qui a été important après la Seconde Guerre mondiale pour mettre en valeur cette question pour les études médiévales, mais aussi modernes, puisqu'il s'est si attaqué à la question pour l'Égypte du XVIIIe siècle. Sa définition tenait à l'idée qu'en gros, les Mamelouks étaient des esclaves qui venaient de régions européennes et chrétiennes, qui étaient ensuite convertis à l'islam à leur arrivée dans le monde musulman, afin d'exercer des fonctions administratives et militaires auprès de souverains, de princes, de gouverneurs, jusqu'à parvenir aux plus hautes fonctions de généraux d'armée, de vizirs. Mais ce qui est important dans cette définition, c'est qu'ils ne transmettent pas à leurs descendants leur statut. Et on retrouve ce phénomène mamelouk, c'est pour ça qu'il a été étudié, du 8e siècle, 8e, 9e siècle, dans l'entourage des premiers califes, jusqu'à leur disparition au 9e siècle, au 19e siècle, dans l'entourage des gouverneurs des provinces arabes de l'Empire ottoman, le Caire, Tunis. Il y en avait aussi dans le Bagdad ottoman. Donc, c'est un phénomène de plus d'un millénaire qui pose la question classique de pourquoi s'appuyer sur des esclaves alors que pourriez donner des tâches de gouvernement et d'administration à des sujets autochtones. Pourquoi faire venir des hommes, les asservir et leur faire connaître une promotion? La définition d'Ayalon était très importante au départ, simplement elle souffre d'exceptions constantes. Et en fait, ces exceptions ont été surtout montrées pour la période moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens qui viennent de l'extérieur, il y a aussi des gens qui ont été asservis dans l'entourage des sultans, des princes, des gouverneurs. Un cas que je pourrais citer, c'est un enfant corse dont la mère meurt dans une épidémie de peste dans les années 1810. En fait, il est vendu au palais des gouverneurs de Tunis, mais ses sœurs restent libres. Et lui devient le doyen des Mamelouks des gouverneurs de Tunis en 1860. Mais il maintient le lien avec ses sœurs qui sont mariées à des vice-consuls européens. Ce qui est aussi intéressant. On a aussi des cas, les Mamelouks ne sont pas forcément des esclaves en termes de statut légaux. On recrute aussi des gens, des autochtones nés musulmans dans certaines provinces. Il y a aussi des cas de juifs au Caire qui étaient enrôlés aussi par les Mamelouks, même d'Égypte, même si les cas sont infimes. Ça montre que c'est important. Ce qui est fondamental, c'est pas tant tous ces critères qu'il faudrait accumuler les uns après les autres. Ils n'ont pas tous tout le package. Certains l'ont pas. Ce qui est fondamental, c'est de maintenir quelqu'un sous votre dépendance. Donc, ce qui est fondamental, c'est comment vous allez faire pour le maintenir sous votre dépendance. L'idéal, c'est que vous l'éloignez de sa parenté d'origine, vous brouillez complètement ses origines, à son enfance, et comme ça, il va plus chercher. Vous restez que son principal maître. La conversion, c'est pas trop mal non plus, mais il le faut. Mais la question se pose pas tant que ça. L'idée, c'est qu'il doit être musulman. Il n'a pas à être converti. Il est dans un univers culturel musulman et sa promotion est aussi liée à des savoirs liés à l'islam. Mais cette perception, donc, permet aussi de comprendre à quoi ça sert, en fait, un mamelouk pour un pouvoir. Hein. À quoi ça sert, pourquoi mettre en valeur ces hommes. Il y a plusieurs types d'explications du recours au mamelouk. L'explication, on va dire, la plus orientaliste, dans un sens où on va dire qu'en gros, on va généraliser le cas mamelouk et on va essayer de dire que c'est lié à la culture musulmane. L'idée, c'est de dire qu'en fait, les corps mamelouks démontrent qu'il y a un problème de légitimité en terre d'islam. Vous ne pouvez pas compter sur les locaux, donc vous faites venir des gens de l'extérieur. Et un auteur, donc Patricia Crohn, dit qu'en fait, c'est un symptôme d'une maladie, d'un manque de légitimité en terre musulmane. Bon, on peut dire que c'est un peu... Elle étudie les mamelouks de la période abbasside, en fait. Et donc, elle s'appuie peut-être sur des sources qui lui montrent cela. Mais il y a une seconde voie d'interprétation qui est plus intéressante, il me semble, qui a été mise en place par l'anthropologue Ernest Gellner dans un article qui a été le premier article de Muslim Society, qui est son ouvrage qui réunit de nombreux articles à rédiger. Bon, c'est très intéressant parce qu'en fait, avant Gellner, il y a Ibn Khaldoun. On doit vous le servir à chaque séminaire, à chaque présentation. Vous n'en pouvez plus d'Ibn Khaldoun. Vous avez le droit de sortir pendant 2 minutes et revenir ensuite. Donc Ibn Khaldoun, si je schématise, il vous dit qu'en fait, il y a une force qui est l'esprit de corps d'une tribu quand elle conquiert le pouvoir. Elle a une force collective qui l'anime et qui permet la conquête du pouvoir. Cette force, la Rasabiya, s'amenuise avec l'installation de la dynastie dans les conforts, hein, divan, loukoum, tout ça amollit la capacité de... Bon, je schématise, c'est pour faire comprendre. Il y en a qui font la moue, mais c'est pour faire comprendre, et j'en viens à Gellner. Mais du coup, comment vous faites pour revivifier cette rasabi, à cet esprit de corps à chaque génération? Parce qu'on va tous, sans qu'il oser, s'habituer au luxe. Donc l'idée de... qui peut être mise en valeur, c'est que les mamelouks venant des steppes, venant d'un autre monde, plus dur, vont vous permettre de réinsuffler un esprit de conquête dans une dynastie qui est en train de se sédentariser. Très très fort, non? Vous n'avez pas l'air de trouver ça très fort, moi je trouve ça très fort. Et bon, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre les recrutements réguliers d'hommes de la Méditerranée du Nord, du Caucase, qu'on estime être comme des hommes venant de l'extérieur et qui pourront peut-être amener quelque chose. Bon, une dernière explication, qui est la troisième explication, qui est peut-être celle qui est plus en vogue et surtout qui paraît aussi plus modeste, mais en même temps plus concrète et aussi plus convaincante, qui a été mise en place pour le 18e, 19e siècle, c'est qu'il faut resituer les mamelouks dans des entourages familiaux, dans des maisonnées. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, on voit toute la manière dont on peut les utiliser pour une logique patrimoniale, pour construire une maisonnée, pour la perpétuer, pour la renforcer. Ils vont être des outils et des courroies importantes dans la mise en place d'une fortune patrimoniale. Je termine sur ça. C'est ce qu'on voit dans le cas de Tunis, puisque les mamelouks des beys de Tunis sont mariés à des princesses, consolident donc la dynastie en place. Et dernier point, ce qui est intéressant, c'est que ça dément aussi Crohn, mais pour une toute autre période, donc celle qu'il disait qu'il y avait un problème de légitimité. En fait, on voit que les mamelouks qui viennent de zones caucasiennes, parfois italiennes aussi, mais surtout caucasiennes et grecques au XIXe siècle, ne distingue pas tant que ça la dynastie de la société. Ce n'est pas une forteresse qui empêcherait le contact entre les dynastes et la société. Ils ne constituent pas une séparation. En fait, ils permettent aussi des médiations des médiations importantes aussi avec les gens de la province de Tunis. Comment ils vont faire ça? Par exemple, ils construisent des palais ou des fondations pieuses à Tunis et ils créent de cette manière-là plusieurs clientèles. Bon, non seulement le maçon ou l'ouvrier ou le contremaître, mais en fait les mosquées qui seront fondées vont aussi permettre de recruter des savants qui vont avoir un rôle dans ces mosquées. Et donc ils créent aussi comme ça de la légitimité et du lien avec la société. Ça, c'est très intéressant. On peut avoir un autre cas à l'inverse. Quand un notable de Tunis, assez riche, achète un enfant à Istanbul, à Izmir, qu'il amène au gouverneur de Tunis, il crée un lien. Il mise sur cet enfant qui, devenant peut-être puissant dans l'entourage du gouverneur dans 20 ans, 15 ans, lui rendra l'appareil après. Donc tous ces liens sont très intéressants. Les Mamelouks ne sont pas forcément la marque d'un problème de légitimité, mais une manière de gouverner. Parce que c'est vrai qu'aussi, ils peuvent créer de la distance. Les gouverneurs de Tunis ne donnent pas leurs filles, ou très rarement, à des autochtones. Pourquoi ? Ils ne donnent pas, par exemple, à des enfants des tribus. Ils ne veulent pas associer. Ils l'ont fait parfois au XVIIIe siècle, mais à leur dépens, créant des situations de conflits importants avec les tribus et leurs alliés. Donc ils évitent cela. Mais de l'autre côté, un notable à Tunis ne souhaite pas que sa fille aille dans le palais des gouverneurs. Parce qu'on estime qu'ils ont des mœurs très étranges, pas classiques. Donc vous voyez, il y a des négociations constantes autour de ces alliances matrimoniales et sur les stratégies patrimoniales qui sont aussi fondamentales. Et je terminerai par là. La seconde moitié du XIXe siècle, là encore, c'est un moment de transformation lié aux réformes, lié à la mise en place de l'armée régulière, lié à la mise en place d'une nouvelle administration et aussi à la mise en place d'une constitution de droit des sujets. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant, mais ça change fondamentalement les relations maître-esclave. Ça hiérarchise davantage, ça formalise des relations d'administration. Ce n'est pas simplement des relations de clientèle. Apparaît, je vais peut-être un peu vite, mais si vous prenez la figure du fonctionnaire, par exemple, bon, je sais qu'on va me poser la question comment vous définissez un fonctionnaire, mais le terme Wadhuf apparaît très clairement dans les sources à cette époque, parce qu'il y a une hiérarchie de salaire, parce qu'il y a une hiérarchie administrative, elle n'est pas forcément suivie dans la pratique, mais c'est quand même cette idée qui est fondamentale, et certains des Mamelouks vont vouloir se penser avant tout comme des fonctionnaires, et pas comme des esclaves. Et du coup, ils se perçoivent autrement que ce qu'ils devraient être. Les derniers mamelouks importants de cette province, notamment Khayr ed-Din, qui est devenu premier ministre du sultan à la fin des années 1870, se percevant avant tout comme un homme d'État et luttant pour l'utilité publique. Et de toute façon, même après les années 1860, vous ne pouvez plus exécuter votre mamelouk si vous pensez qu'il est en train de tramer un complot ou parce que vous avez des problèmes avec lui. À partir de ce moment-là, les autorités européennes ont une forme d'ingérence qui leur permet d'intervenir et d'empêcher toute exécution d'un esclave haut placé s'il est dans leur proximité. Donc, la fin des esclavages dans ce second XIXe siècle est du coup extrêmement complexe. Il ne faut pas la voir forcément dans une idée de « est-ce que l'abolition a été pratiquée ?» Mais plus largement, quelle est la place de l'esclave dans la société? Quelle est son utilité dans les stratégies sociales? Et donc, le placer plus largement dans des relations interpersonnelles et pas forcément rechercher quand est-ce que ça disparaît? Plutôt, à quoi c'est encore utile? Pourquoi ça le devient un peu moins? Et ça permet aussi de comprendre ça, pas simplement en termes d'abolition, d'abolition, mais du point de vue de ces sociétés-là, à l'intérieur même de ces sociétés. Merci.